L'heure est au bilan dans le monde du hockey. Quelques jours après la conquête de la Coupe Stanley par les Capitals de Washington, il faut absolument en parler, évidemment, avec Daniel Brière. Bonsoir, Daniel.
Salut, Mario.
Sais-tu si le party des Capitals est fini?
Non, je pense que ça se poursuit pour... Il y en a au moins pour 2-3 semaines encore, Ovechkin, avec la Coupe à se trimballer un peu partout. C'est assez impressionnant quand même de suivre là, un peu partout ce qui va avec la Coupe Stanley. Il en profite après avoir raté ça de pendant plusieurs années, on dirait.
Ben, je comprends donc, puis on l'a vu être très vocal quand il a reçu la Coupe Stanley sur la glace à Vegas l'autre soir. Te souvenais-tu d'avoir vu un capitaine ou même un joueur là, aussi expressif après avoir gagné?
Ben écoute, non, mais ça me surprend pas vraiment parce que Alex Ovechkin, là, il a mangé, comme on va dire en bon québécois, une bonne volée dans les médias, surtout l'an dernier avec ce qui s'est passé quand il s'est fait sortir encore une fois face aux Penguins de Pittsburgh. Même les journalistes en Russie l'ont massacré publiquement en disant que c'était pas un bon capitaine, c'était pas un bon leader, il savait pas comment gagner. Je pense que pour la première fois, ça l'a affecté. Puis, c'est un peu ce qu'on a ressenti d'Alex Ovechkin en séries éliminatoires. On s'en est parlé il y a 2 semaines de ça quand il affrontait Tampa Bay avant le match numéro 6. Puis il a dit « Je crois que c'est le match le plus important de ma carrière. » Puis oui. Il est sorti en force. Puis après le match numéro 6, avant le match numéro 7, il est revenu encore. Puis là, il a dit « Ben ça, celui-là, c'est vraiment le match le plus important de ma carrière. » Puis encore une fois, il est sorti en force. Ça, c'est un signe de maturité. Parce que c'est bien beau le dire, mais d'être capable de sortir puis le faire, je pense que finalement, là, il est arrivé à maturité. On a vu du grand Ovechkin, mais pas juste un grand joueur, un grand leader aussi cette année en séries éliminatoires. Puis c'est ce qu'on n'avait jamais vu de la part d'Alex Ovechkin dans le passé. C'est ça que je pense que ce qui a été dit à son sujet, là, surtout l'an dernier, par rapport à son leadership, l'a affecté. Puis je pense que c'est ça qui est ressorti là, quand on lui a donné la Coupe Stanley l'autre soir.
Je t'ai souvent taquiné, Daniel, dans nos conversations sur le fait que c'était pas ton préféré et t'as toujours été bien candide quand je t'en ai parlé. Est-ce qu'il y a un côté de toi qui était content de le voir gagner puis de voir les Caps gagner?
je dirais pas jusqu'à peut-être dire content. C'est fort comme mot peut-être un peu. mais j'avoue que c'était mérité. C'est un joueur, comme je disais, là, qui a passé à travers beaucoup. Qui s'est fait malmener dans les dernières années dans les médias. Puis là, il est sorti, il s'est vraiment présenté, puis il a décidé d'être le leader de cette équipe-là pour les amener jusqu'au bout cette année. Fait que ça que je dis, c'est peut-être pas... Je suis pas heureux de voir ça, mais je crois que c'était mérité dans son cas.
Juste pour finir sur la finale, qu'est-ce que tu en as pensé de la finale dans l'ensemble qui s'est terminée en 5 matchs, Vegas-Washington?
Ben écoute, Washington m'a impressionné énormément. Je crois que moi, ce que j'ai senti, c'est une équipe qui est en contrôle à partir du match 1. Même si Vegas a gagné le match numéro 1, j'ai jamais senti comme quoi il était en contrôle. Il y a eu beaucoup de rebonds chanceux de leur côté pour remporter ce match numéro 1-là. Ensuite, au numéro 2, ben écoute, oui, il y a eu la grosse arrêt, mais on n'a jamais senti Vegas. C'était vraiment dangereux. Ça a été encore pire au match de numéro 3, 4 et 5. Où Washington a vraiment pris le contrôle. Donc, c'est ça. J'ai trouvé que c'est peut-être une série finale un peu plate, comme on dit, mais c'était entièrement mérité par Washington.
Je sais pas si tu crois que les équipes sont influencées par la nature de l'équipe qui gagne la Coupe Stanley, genre qu'on tente un petit peu de s'inspirer, d'imiter ce que les gagnants ou les derniers gagnants viennent de faire. Si tel est le cas, qu'est-ce que les équipes voudront tenter de reproduire que Washington a fait?
Ben, si tu regardes les dernières années, les équipes championnes, puis on pense à des équipes comme Washington avec Ovechkin, Pittsburgh les 2 années précédentes avec Crosby, puis on peut mettre Malkin dans le camp. Avant ça, il y a eu Los Angeles avec un Hanzi Kopitar. Tu as eu Chicago avec Jonathan Toews, Patrick Kane aussi, mais vraiment le leader. Puis si on regarde, chacune de ces équipes-là a un grand leader, un gros talent comme joueur, mais aussi de bons leaders. C'est peut-être là qu'auparavant, on voyait pas ça d'Ovechkin. On l'a vu cette année. C'est, on dirait, ce que ça prend pour les équipes. Malheureusement, ces joueurs-là sont pas faciles à trouver. Dans le futur, on peut espérer voir des gars comme Nick David peut-être se joindre à ce groupe-là. On peut penser à un Austin Matthews qui pourrait se joindre à ce groupe-là. Fait que, si la tendance se poursuit, moi, j'aurais là, peut-être tendance à mettre un petit deux sur des équipes qui ont des grands joueurs de talent, mais qui sont aussi de grands leaders.
Donc, ça devient, selon toi, ça deviendrait un incontournable. Si tu faisais des prédictions pour les gagnants, juste pour le plaisir de la conversation des 10 prochaines années, tu chercherais à identifier des équipes qui ont repêché pas mal premier au total?
Bien, ça semble être le cas de plus en plus. Les équipes, là, peut-être à part, disons, dans le cas de Los Angeles avec Kopitar, faut se rappeler que Kopitar, au repêchage, en début d'année, il était classé parmi les trois premiers. Il est sorti, je pense, 10e ou 12e à Los Angeles. Los Angeles a été chanceux de mettre la main sur lui. Mais si tu regardes ces équipes-là, ils ont tous de grands leaders qui sont capables de mener leur équipe au championnat, mais surtout dans le cas des Crosby, Jonathan Toews, puis on a vu Ovechkin cette année. Fait que oui, j'aurais peut-être tendance à me guider un peu avec ça, mais écoute, c'est ça la beauté du hockey, il n'y a jamais de garantie. On l'a vu avec Vegas, qui ont passé proche cette année avec des joueurs qui n'étaient pas voulus dans chacune de leurs équipes. Mais si on suit la tendance des gagnants, ben c'est ce que ça nous dit.
Daniel, faut absolument que tu nous commentes ça. Là, une rumeur qui s'intensifie. Tu n'as entendu parler, là, on prête l'intention aux Prédateurs de Nashville de peut-être échanger Piqué Subban. TSN dévoile une information à l'effet que Ottawa mettrait la main sur Piqué Subban en retour d'Eric Karlsson. Donc, Ottawa avec Piqué qui est signé pour une longue période. Karlsson, ensuite, serait échangé par Nashville du côté de Vegas et Nashville ferait plein d'espoir ou de choix au repêchage, contrôle mieux sa masse salariale, beaucoup d'argent donné à des gars qui sont déjà en place et se prépare pour le prochain repêchage d'expansion en même temps. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Wow, écoute, c'est toute une rumeur. Oui, je serais très surpris. Mais ça fait du sens quand on pense à ce que Ottawa et Nashville ont déjà transigé ensemble dans l'échange de Matt Duchene. Donc, il y a un peu là, quelque chose d'établi déjà là.
Oui.
Une belle relation entre ces équipes-là, ça fait du sens. Faut pas oublier que Nashville a aussi 4 gros défenseurs avec Ellis, Romagnosi et Mathias Ekholm. Donc, si Seattle arrive dans la Ligue dans quelques années, pour le repêchage d'expansion, encore une fois, les règles, ça va être difficile pour Nashville de protéger les 4 défenseurs. Donc, c'est peut-être une belle possibilité pour eux autres d'en passer un tout de suite. Mais c'est sûr que je serais très surpris là, d'avoir une grosse échange de cette envergure-là.
C'est vrai que ça serait étonnant. On nous dit tous que c'est difficile de conclure des transactions. Mais en même temps, du côté de Nashville, puis je pense toutes les équipes qui n'ont pas atteint l'objectif visé remettent tout en question, Daniel. Et Nashville n'a pas atteint son objectif.
Ouais, puis 2 années où ils ont passé proche, 2 années où il y avait l'équipe pour s'y rendre. Donc on se pose des questions, on essaye de peut-être changer ici et là, de faire des petits changements pour améliorer les chances. Mais tu sais, Nashville, c'est pas un gros marché. C'est pas une équipe qui a beaucoup d'argent, donc ils font très très attention. Puis eux autres voient peut-être une belle opportunité en échangeant Piqué Subban de renflouer là du côté des mineurs, des choix au repêchage, puis de bien s'établir disons pour le futur, pour rester une des grosses équipes là dans la Ligue nationale, une des grosses des forces là, de la Ligue nationale.
Toi qui as déjà joué avec Ryan O'Reilly, Daniel, il y a beaucoup de rumeurs en provenance de Buffalo à l'effet qu'O'Reilly deviendrait disponible. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Puis une équipe qui voudrait mettre la main sur lui, là, est-ce que c'est une grosse décision? Est-ce que c'est une bonne décision?
Ben écoute, oui, si tu as de l'espace sur ton cap salarial, sans aucun doute, c'est une très, très bonne décision. Par contre, il coûte cher. C'est un peu ce qui va faire peur aux équipes, puis c'est comprenant parce que si on amène Ryan O'Reilly, comme premier centre, ça peut être difficile. Moi, je le vois comme deuxième centre dans une grande équipe. Les bonnes équipes qui ont besoin, qui recherchent là, de l'aide comme deuxième centre, ce serait parfait. Par contre, un joueur qui fait 7 millions par année ou qui coûte 7 millions par année sur la carte salariale, c'est pas facile de l'avoir comme deuxième centre. On espère trouver ce genre de joueur-là, se retrouver sur la première ligne. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui, comme tu as dit, au Colorado, puis je l'ai adoré comme coéquipier. C'est un gars qui arrive à l'aréna avant tout le monde chaque matin. C'est un joueur que les entraîneurs doivent, à coups de bâton de hockey, le retirer de la patinoire parce qu'il veut pas débarquer. C'est un travaillant. Puis c'est un joueur qui est respecté de tous ses coéquipiers. Donc, côté leadership, là, il n'y a aucun problème avec lui.
Il n'est pas numéro un sur ma liste pour les raisons que tu as évoquées, notamment son salaire dans un rôle de numéro deux. Je suis loin d'être sûr. Ça peut devenir une alternative intéressante si le Canadien n'est pas capable d'attirer les joueurs de premier niveau. Est-ce que, bon, il a la réputation d'être un Lady Bing en quelque sorte. C'est pas un gars qui est pénalisé souvent. Irais-tu à la guerre avec Ryan O'Reilly?
Oui, aucun problème avec ça. Je sais que des fois on regarde très peu de minutes de pénalité, mais c'est pas un gars qui est agressif dans le sens qu'il va pas frapper beaucoup, mais c'est un joueur qui est tout le temps en bonne position. C'est un joueur qui est prêt à bloquer des tirs. C'est un joueur qui pense au côté défensif en premier lieu. C'est pas un joueur qui triche sur la patinoire. Donc je te dirais que oui, de ce côté-là. On peut pas s'attendre à ce que ce soit un gars qui fasse payer le prix aux autres aux équipes adverses. C'est pas un joueur qui va jeter les gants non plus. Par contre, il fait beaucoup de belles petites choses, de bonnes petites choses que les entraîneurs et ses coéquipiers vont apprécier.
Une rumeur, et elles sont nombreuses, ces rumeurs-là. Encore une fois, quand il y a des rumeurs, tu regardes le salaire puis tu comprends pourquoi il y a des rumeurs. Les Oilers d'Edmonton seraient ouverts à l'idée de se départir de Milan Lucic en essayant de préparer une transaction où leur dixième choix au prochain repêchage serait impliqué. Autrement dit, quelqu'un qui va avoir... Tu sais, il y a un prêt à payer, c'est-à-dire que t'encaisses ton salaire, ils vont te donner le dixième choix. Toi, Lucic, penses-tu qu'il y a des bonnes années... est-ce qu'il reste des bonnes années?
Ben encore là, ça dépend ce que tu recherches, ça dépend ce que tu t'attends de Milan Lucic. Je pense pas qu'on va revoir ce joueur-là marquer 20 à 25 buts comme il l'a fait à Boston dans le passé. Je pense que ce temps-là est passé pour lui. C'est plus un joueur de troisième, quatrième trio. Malheureusement, c'est un joueur qui va te coûter très, très cher sur un troisième, quatrième trio, mais qui t'amène beaucoup de robustesse. Lui, c'est complètement le contraire d'un Ryan O'Reilly. Lui, il est là justement pour faire respecter ses coéquipiers. Il va être pénalisé beaucoup, il va être prêt à acheter les gants pour ses coéquipiers, mais c'est pas un marchand de vitesse, puis c'est plus un joueur de premier plan là. Donc j'aurais un peu plus peur de ce côté-là, là, de m'embarquer avec un Milan Lucic. J'irais peut-être plus avec un Ryan O'Reilly si j'avais le choix entre les deux.
Quand on repense à la façon dont les séries se sont jouées, c'est clair qu'il y en a plus de bagarres, Daniel, c'est pas nouveau là, dans les séries, mais on a vu que les équipes qui ont dans leur alignement un gars qui est capable de causer des dommages, un petit peu comme Wilson du côté des Caps de Washington. Je vais pas nommer tous les gars qui ressemblent à ça dans les équipes. Vegas avait peut-être Reeves, quelques autres. Est-ce que ça t'en prend un? Parce qu'il y en a pas à Montréal. Puis Lucic, peut-il devenir un gars dans ce rôle-là où t'es bien mieux d'en avoir un qui va te coûter pas mal moins cher puis qui va faire la job de ce côté-là?
Ouais, écoute, c'est toujours le fun d'en avoir un. Quand tu es sur la patinoire, de savoir que tu as un de tes coéquipiers comme ça qui dérange l'adversaire. T'aimes ça, mais ces gars-là, souvent, comme dans le cas de Lucic, il peut coûter très, très cher. Je pense à un Wayne Simmonds de Philadelphie aussi qui reste seulement une année de contrat, qui va sûrement être mentionné parmi les agents libres pour l'année suivante si son contrat n'est pas renégocié cet été. Donc ces joueurs-là, c'est le fun de les avoir, mais parce qu'ils sont difficiles à trouver, ils vont commander beaucoup d'argent là pour leur contrat. Donc des fois, ça peut être difficile pour les équipes de les garder.
Daniel, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais bien content de t'avoir reparlé. On va se reparler prochainement. Penses-tu que Patrick va être un membre du Canadien quand la saison va recommencer?
Ben écoute, c'est ce qu'on devrait commencer à en entendre parler beaucoup plus là, dans les prochaines semaines. Si vraiment il y a des chances de ce qu'ils partent ou non, je vais essayer de m'informer de ce côté-là de mon bord.
On s'en reparle bientôt. On attend ton appel. Salut Daniel.
À bientôt Mario. Salut.
Merci beaucoup. C'était Daniel Brière, aux amateurs de sport.